À l'écoute des RFI, 10h à Beyrouth et à Tel Aviv, 9h à Paris, 7h temps universel. RFI Matin, le journal. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Des dizaines de bombardements avant même le lever du soleil. Israël poursuit ses frappes contre le Hezbollah.
Hier, en 24 heures, 109 personnes ont perdu la vie. L'État hébreu vise les membres du Hezbollah, mais des civils sont aussi touchés. Alors dans la panique, des centaines de milliers de personnes prennent la fuite. Nous serons en direct de Beyrouth dans un instant. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et une peine d'inéligibilité. En France, Marine Le Pen joue gros. L'ex-présidente du Rassemblement National jugée avec 24 autres personnes pour des soupçons de détournement de fonds. Dans ce journal également, les habitants d'un petit village en Géorgie, en grève de la faim. Et puis ces révélations contre une plateforme de l'industrie chimique aux États-Unis.
Le chef du Hamas au Liban, tué dans une frappe israélienne sur le sud du pays.
C'est ce qu'a annoncé le mouvement palestinien il y a un peu plus d'une heure, alors que les opérations d'Israël dans la région se multiplient. Le Liban entame aujourd'hui un deuil national de 3 jours pour commémorer la mort du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, décédé lui aussi dans une frappe de l'État hébreu avec, selon l'armée, 20 autres membres de la milice chiite. Abla Jounaïdi, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth avec Jad El Khoury au moyen technique. Alors en réalité, l'État hébreu cible aussi des zones où se trouvent des civils. 1000 personnes ont perdu la vie en 2 semaines.
Oui, on a encore entendu une frappe cette nuit. Ce n'était pas dans la banlieue sud de Beyrouth cette fois, mais bien dans la ville. À Kola, le raid contre un appartement visait des membres du FPLP, un parti palestinien dont 3 ont été tués. Il y a une victime supplémentaire. C'est la première fois depuis un an que le centre de la capitale est frappé par Israël. De quoi faire monter encore la tension ici.
Et la conséquence de ces frappes, c'est que la population prend la fuite quand elle le peut. En témoignent ces embouteillages sur les routes menant à Beyrouth. Il n'y a pas de chiffres précis à ce stade, mais des centaines de milliers de personnes ont abandonné leur foyer. Et puis, il y a ceux qui quittent le pays. Hier, Abla, vous êtes allé à l'aéroport de Beyrouth à la rencontre des rares qui ont pu profiter des quelques vols encore disponibles. On écoute votre reportage.
Voilà une semaine que les compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers le Liban à cause des bombardements israéliens. Seul transporteur désormais, la compagnie nationale Middle East joue un rôle vital pour permettre aux Libanais de la diaspora, comme Nadine, originaire de Tripoli dans le Nord, de rentrer chez eux.
Je vais en Suède, je vis là-bas. J'étais venue passer 5 jours ici et puis tout ça est arrivé. Mon vol a été annulé et ça fait presque 2 semaines que je suis au Liban. J'ai été obligée de prendre un vol Middle East. Je ne sais même pas comment j'ai trouvé à ce prix. Des agences en profitent pour vous vendre des billets à 2 000, 2 500 $, alors que c'est 4 fois moins cher en réalité avec 2 bagages. Je n'ai pris qu'une valise parce que je voulais partir rapidement. La situation fait très peur.
Youssef, lui aussi, rentre en Europe et c'est un crève-cœur. Il est originaire du sud du Liban, région pilonnée par l'armée israélienne.
Israël n'épargne ni les civils ni les enfants. C'est ça qui fait peur, qui terrorise. Celui qui dit le contraire est un menteur. Nous vivons à l'étranger. Nous venons visiter le Liban, notre patrie, là où nous sommes nés, où nous avons grandi et où on revient toujours. Jusqu'où ça va aller? Toute notre vie n'est faite que de sang, de terreurs successives. Nous ne savons pas trouver la tranquillité, la stabilité.
Au-dessus de la zone de l'aéroport, les drones israéliens font entendre leur bourdonnement incessant, une présence censée dissuader tout aéronef jugé suspect de se poser à l'aéroport international de Beyrouth.
Alors là, tout le monde n'a pas la possibilité de quitter le pays comme ces gens que vous avez rencontrés. Et pour ceux qui restent, l'épreuve continue.
Oui, l'afflux des déplacés de la banlieue sud et du Liban sud pèse lourd sur les fragiles infrastructures de Beyrouth. Réfugiés syriens et déplacés libanais sont parfois contraints de partager un même espace, comme à Place des Martyrs, où les familles vivent par terre, ce qui peut créer des tensions lors de la distribution de l'aide, comme nous racontait hier cette femme syrienne.
Il y a une bagarre entre jeunes. Les uns ont dit « nous sommes Libanais, pourquoi est-ce qu'on se retrouve réfugiés chez nous ?» Mais Libanais et Syriens, nous sommes d'une seule famille, c'est vrai non ?
La situation serait bien pire si de nombreux Libanais n'avaient pas ouvert leurs portes aux déplacés. Hier, le Premier ministre a déclaré que les frappes israéliennes avaient provoqué le plus grand déplacement de population de l'histoire du pays. Il reçoit en ce moment le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en visite ici, et qui apporte avec lui 12 tonnes de matériel médical pour soigner 1000 blessés graves.
Et une dernière question, comment le pays se prépare-t-il aux funérailles du chef du Hezbollah ?
Alors pour l'instant, aucune information fiable sur ce sujet. Le Hezbollah a réfuté les rumeurs à propos d'une cérémonie ce lundi. Le contexte sécuritaire pèse de tout son poids, bien sûr. Les partisans de la base sont en tout cas toujours sous le choc de la nouvelle et bien souvent eux-mêmes occupés à trouver un endroit sûr où dormir depuis les dernières attaques dans la banlieue sud.
Abla Jounaïdi, notre envoyé spécial à Beyrouth avec Jadel Khoury pour les moyens techniques.
RFI 9h06 à Vienne où l'extrême droite exulte ce matin.
Et pour cause, le parti FPE a fait un score historique aux législatives de ce dimanche, près de 29% des suffrages exprimés. La formation en tête de ce scrutin tourne donc le dos au fiasco des précédentes élections. C'est la première fois que le FPE arrive à se hisser en tête des législatives, de quoi galvaniser les militants du parti, Zorias.
Les électeurs du FPE ont célébré toute la soirée cette première place historique. Helmut, militant depuis de nombreuses années, espère aujourd'hui du changement.
Il faut que les choses changent et l'une d'entre elles est l'immigration que nous devrions rendre un peu plus sélective afin de prendre les personnes dont notre pays a vraiment besoin. Chez les Américains, on dit « America first », mais chez nous, c'est mal de dire « Österreich first », l'Autriche d'abord, et ça, je ne comprends pas.
Petra, une jeune quarantenaire, affirme que c'est la position anti-vaccin du chef du FPE, Herbert Kickel, durant la pandémie, qui l'a convaincu de voter extrême droite ce dimanche.
J'aime sa stabilité d'opinion. Pendant la crise Covid, il a vraiment tenu bon et c'est là qu'il a gagné mon cœur. La crise Covid a creusé un fossé au sein de la population et ces divisions doivent cesser.
Désormais, les électeurs FPE comme Yasmine en appellent aux conservateurs de l'EFAOP pour former ensemble une coalition.
On voit ce soir ce que le peuple veut et dans une démocratie, on doit suivre ce que le peuple souhaite. On a déjà eu des gouvernements, EFAOP, FPE, et de bonnes choses sont sorties. C'est pourquoi j'espère que cela pourra continuer de manière aussi positive.
Le chef des conservateurs, Karl Nehammer, a exclu de discuter avec Herbert Kickl, jugé trop radical, mais pas avec le FPE. Les conservateurs pourraient toutefois préférer s'allier aux sociaux-démocrates, éventuellement associés au parti libéral Neos. Isorias, Vienne, RFI.
Et à l'annonce des résultats hier, l'extrême droite française s'est elle aussi félicitée. L'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, y voit le dernier signe en date d'une lame de fond qui, selon elle, confirme partout le triomphe des peuples.
L'ex-dirigeant du RN qui aimerait bien, elle, triompher de ses ennuis judiciaires.
Et oui, car Marine Le Pen comparaît devant la justice avec 24 autres personnes ainsi que son parti. Ses co-accusés et elle sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de détournement de fonds en utilisant de l'argent du Parlement européen pour payer des assistants d'eurodéputés qui, en réalité, aurait travaillé pour ce qui était encore à l'époque le Front National. Les prévenus risquent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Mais surtout, Valérie Gasse, Marine Le Pen pourrait être déclarée inéligible.
C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Marine Le Pen. Dans ce procès, elle joue son avenir politique et sa capacité à être, comme elle le souhaite, candidate une nouvelle fois à la présidentielle de 2027. La décision de la justice aura donc un impact politique en ouvrant ou fermant la porte aux ambitions élyséennes de celle qui apparaît aujourd'hui comme une favorite du prochain scrutin. Condamnée à une peine d'inéligibilité, elle serait empêchée. Marine Le Pen réfute les accusations dont elle est l'objet et défend que des assistants parlementaires ont forcément un rôle politique auprès de leurs députés pour nier le détournement de fonds. Il n'empêche que l'issue est incertaine et que dès avant la décision des juges, ce procès qui va durer 2 mois risque de la fragiliser. Elle qui essaie depuis les dernières législatives de jouer le rôle de celle qui détient dans ses mains l'avenir du gouvernement Barnier en votant ou non une motion de censure. L'objectif de Marine Le Pen sera donc de se défendre sur le fond et sur la forme en faisant de ce procès une tribune pour dénoncer une opération politique, un argumentaire rodé au RN.
Le procès se tiendra jusqu'au 27 novembre. Plus de 2 victimes de violences sexuelles toutes les heures en République démocratique du Congo. C'est le chiffre dévoilé par l'ONG Médecins sans frontières dans un rapport publié ce matin. L'organisation indique avoir soigné plus de 25 000 victimes l'an dernier, la plupart dans la province du Nord Kivu. Bien au-dessus donc des 10 000 victimes qu'MSF enregistrait en moyenne jusque-là. et la situation s'est encore dégradée ces derniers mois, patient Ligaudy.
91% des victimes soignées par MSF en 2023 viennent du Nord Kivu, une région dévastée par les combats entre le groupe armé M23 soutenu par Kigali et l'armée congolaise appuyée par les milices locales Wazalendo. Pour MSF, c'est dans les camps de déplacés autour de Goma que les violences sexuelles sont particulièrement alarmantes. Dans ces sites surpeuplés, sont prises en charge par les équipes d'MSF la grande majorité des victimes, soit près de 18 000 femmes violées. Le rapport révèle que les femmes et les filles, qui constituent 98% des victimes, sont agressées lors des simples tâches quotidiennes, comme aller chercher du bois ou des loups. Selon MSF, 8 115 femmes ont sollicité un avortement. Certaines victimes ont été testées positives au VIH ou à d'autres infections sexuellement transmissibles. Ces données d'MSF ne sont pas exhaustives. Beaucoup des victimes de violences sexuelles ne se rendent pas dans les structures de santé. Christophe Mamboula, responsable des programmes d'MSF en RDC, décrit une situation où les deux tiers des agressions se déroulent sous la menace d'une arme. Et la tendance n'est fait que s'aggraver en 2024. Rien que dans les 5 premiers mois de l'année, le Nord Kivu a déjà enregistré plus de 17 000 victimes, soit 70% du total de l'année précédente. Patient Ligaudy, Kinshasa, RFI.
En Géorgie, un combat aux allures de David contre Goliath. Les habitants d'un petit village, Léa, s'attaquent à une société minière.
La localité de Choukrouti, dans le nord du pays, est située à proximité d'une mine de manganèse. Sauf que, d'après la population, les méthodes employées pour exploiter le gisement sont responsables de graves dégâts sur les habitations alentour. Le tout sans la moindre compensation financière. Au-delà de cette entreprise, les habitants ont aussi le gouvernement dans leur viseur puisqu'ils l'accusent de protéger l'investisseur. Après des années de protestations, Régis Janté, ils ont entamé une grève de la faim.
Depuis 2019, les habitants de Choukrouti et d'une douzaine d'autres villages des Piémonts du Caucase se plaignent des dégâts causés à leur maison par l'exploitation des mines de manganèse alentour. Ils multiplient les piquets de grève et autres démarches auprès de la société Georgian Manganèse et des autorités publiques. En vain. D'où la décision début septembre de certains de venir camper devant le Parlement de Tbilissi. Et Terry, la quarantaine, nous montre des photos de sa maison sur son téléphone.
Vous voyez, ma maison est éventrée depuis la cheminée jusqu'en bas. Et regardez toutes ces fissures. Et là, regardez la tapisserie qui se déchire.
Désespéré, une poignée d'hommes a entamé une grève de la faim il y a un mois. Ils se sont aussi cousus partiellement la bouche, nous les retrouvons, allongés sur de petits matelas, une couverture sur les jambes, comme Bekane Paridze, qui vit d'agriculture vivrière à Choukrouti.
Ça fait 7 mois que je ne peux plus vivre dans ma maison. On fait une grève avec des moyens extrêmes de protestation. On n'avale que de l'eau. On veut montrer à tout le pays que nous avons raison. C'est pour ça qu'on lutte. On n'a pas d'autre intérêt.
Selon Beka, seuls 5% des personnes affectées par les activités de la société ont reçu une compensation. Ce que nie le producteur de ce métal grisâtre employé dans l'industrie et l'agriculture. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et puis Léa, l'industrie chimique au cœur d'un nouveau scandale.
Le nom de cette affaire, les Bonus Eventus Files. Ces révélations mettent en cause une plateforme américaine privée, en fait une base de données dans laquelle on peut retrouver les informations personnelles de plus de 500 scientifiques, journalistes, experts de l'ONU ou encore militants écologistes, des figures jugées critiques de l'agriculture intensive. Le site met aussi à disposition de ses abonnés des éléments de langage. Simon Rosé, l'affaire a été révélée par le collectif Lighthouse Reports, composé de journalistes d'investigation, qui s'est associé à plusieurs journaux internationaux, dont Le Monde.
Bonus Eventus est une plateforme inconnue du grand public. Elle s'avère pourtant très utile pour ses membres. 1 000 000 d'abonnés, des cadres de l'agrochimie, des consultants, des fonctionnaires chargés de réguler l'accès aux pesticides. À leur disposition, des informations, parfois d'ordre privé, sur des opposants, mais également des éléments de langage à disséminer. Stéphane Foucard est l'auteur pour le journal Le Monde d'une enquête sur cette plateforme.
Toute la puissance de ce genre d'instrument, on le voit quand des pays comme certains pays africains ou l'Union européenne cherchent à verdir leur agriculture et à imposer des restrictions plus fortes à l'utilisation de ces technologies, en particulier des pesticides, eh bien on voit se mettre en branle tout un réseau qui va œuvrer pour torpiller tel colloque en faveur de l'agroécologie au Kenya, essayer de mettre un pied à Bruxelles pour dénigrer la stratégie européenne de verdissement de son agriculture, etc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui a une utilité forte pour ces commanditaires.
Plongé dans la boîte noire de la propagande mondiale en faveur des pesticides, c'est le titre du journal Le Monde. Une boîte noire dont la légalité interroge, notamment l'activité de fichage. Si cela semble autorisé aux États-Unis, des personnes de plus de 60 nationalités différentes figurent dans ces fichiers. En France, au Kenya ou en Inde, les victimes pourraient alors se tourner vers la justice.
Simon Rosé, pour finir ce journal.
C'était Léa Boutin-Rivière. Merci à vous, bonne journée, 9h15 à Paris. Et RFI Matin se poursuit dans un quart d'heure, le retour de l'actualité africaine avec Simon Bourtembourg. D'ici là, on sera au Royaume-Uni. Le pays ferme ce lundi sa dernière centrale à charbon, à Ratcliffe-on-Soar. Il est le premier à le faire au sein du G7. L'objectif de Londres, une électricité 100% propre en 2030. On appellera Emeline Vin. Et puis question d'environnement avec Jeanne Richard. Faut-il autoriser à nouveau la chasse à la baleine? Mais d'abord, c'est la revue de la presse internationale. Et à la une ce lundi, Frédéric Couteau, le Proche-Orient plongé dans l'inconnu.
Hassan Nasrallah tué vendredi à Beyrouth, ainsi qu'une vingtaine de dirigeants du Hezbollah. L'organisation chiite décapitée. Ce matin, le Jerusalem Post se réjouit. Israël, grâce à sa persévérance, à un leadership fort, à des renseignements précis et à un patriotisme sans faille, Israël a réussi à détruire le réseau terroriste transnational de la République islamique d'Iran. En quelques mois, pointe le quotidien israélien, le Hezbollah a été relégué dans les poubelles de l'histoire. Le dirigeant iranien Khamenei a perdu progressivement la capacité de reconstruire et d'activer le Hamas et le Hezbollah. Et aujourd'hui, le monde attend la fin de l'histoire. Alors justement, comment cette guerre peut-elle se terminer? Quand va-t-elle se terminer?
Certes, constate le Washington Post, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas tort quand il déclare, après la mort de Nasrallah, Israël a le vent en poupe.
Oui, près d'un an après le début de ce qui ressemble de plus en plus à une guerre éternelle contre le Hamas et d'autres membres de l'axe de résistance régionale de l'Iran, Israël a déséquilibré ses ennemis. Mais la question qui se pose à Benjamin Netanyahou est la suivante, un élan vers quoi? L'histoire d'Israël, rappelle le Washington Post, est jalonnée de triomphes militaires tactiques à court terme qui se sont révélés stratégiquement stériles, voire qui ont jeté les bases de nouveaux conflits. S'il y a bien une certitude au milieu de cet océan de doutes, c'est que la mort de Nasrallah fait rentrer la guerre au Proche-Orient dans une nouvelle dimension, pointe Libération à Paris. On a tous le sentiment d'un point d'inflexion énorme, avance prudemment Nadim Houri, directeur exécutif du Centre de réflexion Arab Reform Initiative. Tout dépend de comment l'Iran va réagir et de la manière avec laquelle le Hezbollah va rebondir. En est-il seulement capable, s'interroge Libération, après tant de dégâts avec tant de commandants tués.
Et en effet, s'interroge le Figaro, affaibli, l'Iran vengera-t-il son principal proxy en déclenchant une guerre régionale?
Pour l'instant, l'ayatollah Khamenei, qui n'est pas à l'abri à Téhéran non plus, semble indiquer qu'il soutiendra le Hezbollah jusqu'au dernier Libanais, sans s'impliquer directement donc, redoutant une confrontation frontale avec Israël et les États-Unis. Téhéran jouera la patience stratégique en attendant de rétablir sa propre dissuasion et fera tout pour acquérir l'arme nucléaire avec l'appui de Moscou. Et le Figaro de s'interroger encore, le Liban saura-t-il saisir ce moment pour réduire la mainmise du Hezbollah sur son état déliquescent? C'est l'autre péril, une guerre civile au pays du Cèdre qui menacerait d'entraîner un nouvel embrasement.
L'impossible union nationale soupire pour sa part Lorient Le Jour à Beyrouth.
Le Hezbollah en est un obstacle majeur, affirme le quotidien libanais. Comment pourrait-il en être autrement dès lors qu'il déclenche des guerres destructrices sans demander leur avis aux autres Libanais alors même qu'il n'a aucune légitimité à le faire? L'Union nationale est d'abord un partenariat, une espèce de contrat. Lorsque le Hezbollah décide d'ouvrir au Liban Sud un front de soutien au Hamas palestinien à Gaza, sans même faire semblant de passer par les canaux institutionnels et sans accorder le moindre intérêt aux objections d'une grande partie de ses compatriotes, alors, estime Lorient Le Jour, il rompt lui-même ce contrat.
En fait, analyse Haaretz, à Tel Aviv, la véritable solution réside dans le renforcement de l'État libanais qui doit désarmer le Hezbollah.
Cependant, le Liban est plus faible que jamais, pointe le quotidien israélien, et la capacité d'Israël à influencer un tel processus sur le plan diplomatique est négligeable. Alors, un seul moyen, affirme Haaretz, une force internationale qui soutiendra l'armée libanaise. Mais encore faudrait-il que la communauté internationale se mette d'accord. Alors combien de temps cela va-t-il durer, souffle Haaretz. La paix dans le Nord après la Deuxième Guerre du Liban a été maintenue peu ou prou pendant 17 ans, si seulement c'était le cas pour cette guerre. Hier, le même quotidien Haaretz lançait cet avertissement. Pour Israël, Israël, le danger le plus grand d'un point de vue militaire et stratégique serait de devenir arrogant et grisé par la victoire. On perçoit déjà cette arrogance avec des appels venant de toutes parts pour le démantèlement total du Hezbollah, l'imposition d'un gouvernement différent au Liban et même l'entrée en guerre contre l'Iran parmi d'autres scénarios mégalomanes qui ont le vent en poupe actuellement en Israël.
Frédéric Couteau, merci à vous. Vos revues de presse à retrouver à tout instant sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Il est 9h20 à Londres, bientôt 8h20. Et 9h20 à Paris, bien sûr. On est au Royaume-Uni à présent, où la dernière centrale électrique à charbon va fermer ses portes ce lundi soir. Le pays va devenir le premier du G7 à renoncer au charbon. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Correspondante d'RFI en direct avec nous de la capitale britannique. Alors l'objectif, c'est de parvenir à produire une énergie 100% propre d'ici 2030. On va y venir avec vous dans un instant. Mais d'abord, on écoute votre reportage à Radcliffe-on-Soar, dans la région de Nottingham. C'est là donc que cette centrale à charbon fonctionnait depuis près de 60 ans. Et vous vous êtes rendu dans le village pour assister à la fin d'une époque.
Les 8 immenses tours de refroidissement de la centrale à charbon de Radcliffe-on-Soar dominent le paysage.
Quand vous rentrez chez vous après un long trajet et que vous apercevez ces tours, vous savez que vous êtes à la maison.
John a grandi à 5 km de la centrale, la dernière du pays à produire de l'électricité au charbon.
Il y a une vingtaine d'années, j'ai failli devenir apprenti en ingénierie électrique. On était une centaine à postuler. On nous a montré ces trois énormes turbines au travers desquelles passait la vapeur. Les gens avaient l'air d'adorer leur travail, ils avaient un bon régime de retraite et il y avait même un terrain de golf sur le site.
Devenu jardinier, le quadragénaire souligne avec fierté que le Royaume-Uni est le premier pays à renoncer totalement au charbon. La fin d'une époque, soupire Ray State, ancien ingénieur ferroviaire qui acheminait le charbon jusqu'à Radcliffe.
On parlait du roi charbon. Notre révolution industrielle s'est basée sur le charbon. La génération d'énergie, toutes nos usines fonctionnaient au charbon.
Aujourd'hui, délégué de la centaine d'habitants du village, le retraité enchaîne les rendez-vous avec les dirigeants de la centrale. Son inquiétude, l'avenir du site au milieu d'une zone rurale tranquille.
Nous ne savons pas qui va s'installer, quel type d'entreprise. Que va-t-il se passer si ce ne sont pas des entreprises vertueuses, mais des indésirables? Un centre de distribution, par exemple?
L'entreprise n'a pas détaillé ses plans. Le charbon ne pèse plus qu'un pour cent dans le mix énergétique britannique. Pour l'analyste Jess Ralston du think tank Energy and Climate Intelligence Unit, le Royaume-Uni opère tout de même un pas de géant.
Cela montre au reste du monde que c'est faisable. On nous promettait des blackouts, des coupures de courant, des discours qu'on entend aujourd'hui au sujet des énergies renouvelables, alors que le solaire et l'éolien sont désormais peu chers, que des batteries commencent à arriver pour stocker l'énergie. La fin du charbon au Royaume-Uni marque vraiment un tournant mondial.
Mais le Royaume-Uni a-t-il les moyens de parvenir à une énergie propre en 2030?
Nous aurons du travail. Il faudra développer beaucoup plus le renouvelable, l'éolien en mer. Il faudra s'assurer que le réseau de transmission de l'électricité peut supporter cet apport. C'est ambitieux, mais nous sommes nombreux à penser que c'est possible avec de la volonté politique.
Le nouveau gouvernement travailliste a déjà annoncé la création d'un fournisseur d'énergie renouvelable public pour approvisionner en électricité plus de 6 millions de foyers d'ici 2030. Emeline Vin, de retour de Radcliffe-on-Soar.
Alors Emeline, on vient de l'entendre, la fermeture de la dernière centrale à charbon du Royaume-Uni fait partie de la transition du pays vers la neutralité carbone. Le gouvernement vise une électricité propre à 100% d'ici 2030. Où en est-on à 5-6 ans de la date couperet?
Eh bien, depuis l'année dernière, le Royaume-Uni produit plus d'électricité à partir de sources faibles en carbone qu'à partir d'énergies fossiles. Bon, ça reste une toute petite majorité, hein, 51% d'électricité propre en 2023. L'éolien représente la plus grosse source. Et puis, il faut le noter, dans ces 51%, il y a quand même le nucléaire. Ça n'est pas une source renouvelable à proprement parler, mais elle est faible en carbone et le gouvernement compte dessus pour renoncer totalement aux énergies fossiles dans les 5 prochaines années.
Alors la chercheuse que vous avez interviewée estime que si le gouvernement veut parvenir à ses fins, il y aura du travail. Quels sont les défis auxquels est ou sera confronté le Royaume-Uni ?
Eh bien, il y a les réglementations déjà. Jusqu'à cette année, par exemple, l'installation d'éoliennes sur terre, non en mer, était de facto interdite. Cette interdiction vient tout juste d'être levée. L'un des autres gros défis, c'est le stockage de l'énergie. Pour revenir aux éoliennes, par exemple, les jours où il y a beaucoup de vent, elles produisent beaucoup d'électricité, mais il faut trouver le moyen de conserver cette électricité pour les jours où il n'y a pas de vent, le moyen aussi de la transporter à travers le pays pour les régions plus protégées. Tout ça, ça veut dire des pylons, des câbles électriques dans le ciel, bref, des petites verrues, entre guillemets, dans le paysage. Alors le Premier ministre tente, depuis plusieurs mois, de convaincre l'opinion d'accepter ces installations. Puis bien sûr, il va falloir de nouvelles infrastructures, des constructions, et tout ça, évidemment, ça prend et du temps et de l'argent.
Et on ne parle là, Emeline, que de l'énergie produite par et au Royaume-Uni, mais le pays importe aussi, évidemment, comme beaucoup, une partie de son électricité.
Oui, environ 37% de son énergie que le Royaume-Uni transforme ensuite en électricité. Cette énergie, elle est en grande partie fossile, charbon, gaz, pétrole. Le sujet de la transition énergétique, du coup, il touche de très près celui de la sécurité énergétique. Ne pas dépendre d'autres pays comme la Russie ou le Qatar pour l'énergie. La guerre en Ukraine, qui a eu un impact énorme ici sur les tarifs de l'énergie, a permis de mettre cet enjeu en lumière et de convaincre une partie des Britanniques de l'intérêt d'une énergie 100% british, sinon pour la planète, au moins pour leur porte-monnaie.
Émilie Devin, en ligne de Londres, correspondante d'RFI au Royaume-Uni. Bonne journée à vous là-bas à 9h25. Et ben on continue de parler de la planète, c'est notre question d'environnement. Faut-il autoriser à nouveau la chasse à la baleine? C'est la question du jour. Alors que vient de s'achever à Lima, au Pérou, la 69e réunion de la Commission baleinière internationale. Une semaine de débat entre les pays qui souhaitent protéger davantage ces animaux essentiels à l'équilibre de la vie sous-marine et ceux qui veulent rétablir la pêche commerciale. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Du service environnement d'RFI. Plusieurs pays, notamment des pays africains, demandaient en effet d'autoriser à nouveau la chasse à la baleine.
Oui, une requête a été déposée par la Guinée, avec le soutien d'autres pays du continent, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Ghana ou encore Congo-Brazza. Ces pays voulaient pouvoir pêcher la baleine afin de lutter, disent-ils, contre l'insécurité alimentaire. Une proposition qui a été rejetée par les autres États membres de la commission baleinière. D'abord, aucun de ces pays n'a de tradition de chasse et de consommation de viande de baleine. Les dernières campagnes de chasse datent de l'époque coloniale et étaient destinées aux pays occidentaux. Et pour assurer la sécurité alimentaire de leurs habitants, ces pays savent que la chasse à la baleine n'est pas une solution. D'ailleurs, elle est interdite par leur loi nationale dans leurs espaces maritimes. Il serait plus efficace de lutter contre le pillage de leurs poissons par les flottes industrielles asiatiques et européennes, tacle les ONG de défense de l'environnement. Non, en réalité, derrière cette requête se cache le Japon. Selon Matt Cullis, du Fonds international pour la protection des animaux, le Japon, un des trois derniers pays à chasser la baleine avec la Norvège et l'Islande.
Ils ont été persuadés par le Japon de demander l'autorisation de la pêche à la baleine. Je pense que c'est du fait que beaucoup de ces pays reçoivent d'importantes aides financières de la part du Japon pour leur pêcherie. Et c'est un échange de bons procédés. De l'argent pour les pêcheries contre une position pro-chasse à la baleine à la Commission. Mais aujourd'hui, plus personne ne mange de baleine. Il y a des milliers de tonnes de viande de baleine entreposées dans des congélateurs au Japon parce que les nouvelles générations n'en veulent plus. Et la Norvège et l'Islande ont du mal à exporter leurs excédents de viande de baleine au Japon parce qu'il n'y a tout simplement pas de marché. Ce n'est plus une activité économique viable.
La chasse à la baleine reste donc interdite. Jeanne, c'est le cas depuis le moratoire de 1986. À l'époque, la chasse industrielle avait réduit à peau de chagrin les populations de baleines. Plusieurs espèces étaient considérées comme en danger de disparition.
Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui pour certaines espèces comme la baleine franche Atlantique et qui est en train de s'éteindre. Il ne reste plus assez d'individus pour assurer la survie de l'espèce. Par contre, d'autres, comme la baleine à bosse, ont vu leur population augmenter grâce aux efforts de conservation et ce fameux moratoire. Mais de toute façon, elles font toutes face à de plus en plus de dangers, les collisions avec les bateaux, la pollution, le changement climatique ou la pêche accidentelle. Or, il reste primordial de les protéger. Les cétacés se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Leur faim entraînerait un effet domino sur toutes les espèces se trouvant en dessous du plan plancton, aux poissons que l'on mange.
Et ces débats, Jeanne, à la commission baleinière, résonnent particulièrement en ce moment, en écho à une autre actualité, celle de Paul Watson, en prison au Groenland pour ses démêlés avec les baleiniers nippons. Une nouvelle audience d'ailleurs est prévue cette semaine, en attendant une possible extradition de Watson vers le Japon. On suivra cela évidemment sur RFI. Dans une minute, l'actualité africaine.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Direction la Turquie, avec le témoignage de Fatma, une ancienne fonctionnaire de la commission électorale afghane. Grièvement blessée dans un attentat des talibans, elle a fui son pays il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, sans protection, elle vit dans la peur d'être renvoyée à Kaboul avec son mari et ses enfants.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.
TV5 Monde Plus, c'est la première plateforme francophone mondiale. Films, séries, documentaires, culture, jeunesse. À l'occasion du sommet de la francophonie, découvrez nos sélections et nos coups de cœur venus des quatre coins de la planète. Partout, tout le temps, gratuitement. Rendez-vous sur l'application et le site tv5mondeplus.com.